Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Alors, c'est pourquoi ?
Par curiosité, pour voir. C'est pour ça que je t'ai suivi, bonhomme.
Curiosité, l'info locale autrement. C'est sur Canal B du lundi au vendredi à 17h40 et en rediffusion le lendemain à 9h40. Et aujourd'hui, vous allez entendre la rediffusion d'une interview qui est passée sur cette antenne en janvier 2024. L'installation de Léa Chevrier, que vous allez découvrir, un orchestre à soi, c'est son nom. Elle est à découvrir à l'Opéra de Rennes du samedi 21 septembre au samedi 5 octobre. Léa Chevrier, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes autrice, réalisatrice sonore. Vous êtes rennaise, hein ?
Oui, tout à fait, depuis 4 ans.
Et on va commencer par vous présenter un peu plus dans le détail. Alors, vous êtes diplômée de l'École nationale supérieure Louis Lumière en option son et du Conservatoire de musiques anciennes. Vous avez, entre autres choses, un intérêt pour la spatialisation du son. On peut expliquer aux auditeurs ce que ça implique, un tel travail. L'idée, c'est justement pas ce qu'on entend là en ce moment, d'avoir le même son dans les deux oreilles du casque. C'est d'aller beaucoup plus loin que ça, de travailler sur l'enrichissement du paysage.
Bah c'est, ouais, c'est l'idée de pouvoir répartir des sons dans l'espace. Et ça change la perception qu'on peut avoir d'une création sonore si elle est diffusée dans un seul haut-parleur ou plusieurs haut-parleurs. Et donc, moi, je fais deux choses. Soit je travaille au casque, donc avec du binaural, soit je travaille sur enceinte. Et donc là, pour ce projet dont on parle, je travaille sur enceinte. Donc, il y a 15 enceintes réparties dans l'espace. Et ça permet d'avoir une perception plus sensible.
Des sons.
Voilà.
Vous avez employé le mot binaural, il faut dire ce que c'est. On le voit souvent apparaître dans des productions aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le binaural ?
Le binaural, donc, c'est plusieurs techniques spécifiquement pour le casque, donc, qui permettent avec un casque audio classique d'entendre justement du son spatialisé devant, derrière, à gauche, à droite, en haut, en bas.
Et d'être en immersion.
Et d'être en immersion, voilà.
Alors votre mémoire en 2015, il portait justement sur ce thème de l'expérimentation des techniques binaurales appliquées aux documentaires radiophoniques. L'installation et le projet dont on va parler, l'orchestre à soi, il n'est pas sur cette technique-là, mais il y a quand même donc un travail de spatialisation du son. Et votre autre centre d'intérêt, ce sont les féminismes au pluriel. En quelques années, vous avez produit beaucoup de choses autour de ce thème et puis d'autres, hein, pour Arte Radio, France Culture ou encore Louis Média, vraiment dans le domaine du podcast natif. Est-ce qu'il y a un projet parmi ceux-là dont vous êtes le plus fier en ces quelques années de production et de réalisation ?
J'avais fait un podcast avec une réalisatrice pour le planning familial. Pour le coup, c'était un projet féministe. C'était un très beau projet, je trouve. Donc, sur le planning familial de Marseille, qui s'appelait Au cœur du planning. Donc, c'était une journaliste et on avait fait 6 épisodes ou 7 sur le fonctionnement du planning et les différentes choses qu'ils font.
Qu'on peut encore retrouver
On peut toujours retrouver sur les plateformes de podcast et mon site.
Les plus connus, Spotify, Deezer, Ocha, etc. Vous êtes aussi musicienne, puisqu'on l'a dit, vous êtes passée par le Conservatoire de musique ancienne. Est-ce que c'est peut-être ce qui vous a amené sur ce sujet-là qu'on va évoquer, des compositrices oubliées ?
En partie, oui. En fait, je me suis rendue compte vers 25 ans à peu près, je ne sais plus trop comment, mais que j'avais jamais joué une seule partition écrite par une femme. Et j'ai fait à peu près 15 ans de conservatoire, dans 3 conservatoires différents. Donc j'ai eu plein de profs de musique, je faisais la flûte à bec. Donc des profs de flûte à bec, des profs de solfège, des profs d'histoire de la musique, etc. Et je me suis rendu compte que j'avais jamais joué une seule partition et que je pouvais citer que 2 compositrices à peu près dans l'histoire de la musique.
Lesquelles ?
Classique. À l'époque, je pouvais citer Hildegarde, donc, qui est une compositrice du Moyen-Âge, qui est assez connue, qui est surtout connue pour ses autres aspects de sa vie. Elle a écrit beaucoup pour... la biologie, la science, etc.
Et aussi religieux.
Et religieux. Et je connaissais Clara Schumann, parce que Robert Schumann.
Mmh. Voilà. C'est ça.
C'est sa femme.
C'est sa femme, à Robert Schumann. Vous le dites, si l'histoire de la musique ne nous est racontée, en tout cas dans les livres, qu'à travers celle de grands hommes, on cite quelques noms les plus connus, Mozart, Bach, Beethoven, eh bien en fait, les femmes aussi ont composé de la musique. Vous l'avez découvert par votre propre expérience. Je pense que ces dernières années, c'est une réflexion qui a été aussi menée par des musiciennes, des chercheurs, chercheuses. Vous avez vu le sujet exploré par d'autres ?
Oui, tout à fait. Mais je m'en suis rendu compte parce que j'ai fait un projet en fait, pour une abbaye dans le sud-ouest de la France, qui s'appelle l'abbaye de Sordes. Et je vais pas tout raconter, mais plusieurs hasards, on va dire, j'ai commencé à écrire une fiction sonore sur Béatrice de Die, qui est une troubadour, c'est-à-dire une troubadour, c'est le mot féminin pour dire troubadour, du XIIe siècle. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai ça, est-ce qu'au XVIIe siècle, donc la période baroque, qui est la période que j'ai le plus étudiée, est-ce qu'il y a aussi des compositrices, parce que j'en connais pas? Et là, je suis tombée sur Elisabeth Jacquet-Laguerre, qui était une immense compositrice à l'époque, qui était à la cour de Louis XIV. Et en fait, c'est là que j'ai eu un choc, quoi, le fait de découvrir ça à 25 ans. Et je connaissais, j'avais même jamais entendu son nom, alors que j'ai fait je ne sais combien d'années au conservatoire en musique baroque. Donc on étudie quand même une période très spécifique qui dure un siècle et demi, c'est quand même très court. Et des compositeurs hommes, je peux en citer des dizaines dans différents pays. Et Elisabeth Jacquet-Laguerre, qui est française, qui est la plus grande compositrice de cette époque que j'ai étudiée pendant 15 ans, je ne connaissais même pas son nom. Quoi. Donc là, je me suis dit, il y a un truc à faire. Quoi. Voilà, c'est ça le début de ce projet.
Parce que c'est même pas juste que les femmes faisaient de la musique, c'est qu'elles ont écrit des chefs-d'œuvre et ont été reconnues, en tout cas à l'époque, de leur vivant. Quoi.
C'est ça, et c'est ça en fait ce qui a changé ma vision des choses. Comme souvent, on croit que le féminisme, c'est un peu un progrès constant, petit à petit, et en fait, pas du tout, c'est beaucoup plus oscillant que ça. Et à certaines époques, des femmes, en tout cas, là par exemple au XVIIe siècle, cette compositrice, elle était très reconnue par le roi de France, elle avait une bourse pour toute sa vie, etc. Et elle était acclamée par tout le monde, hein, par la critique, elle était très reconnue. Et on l'a effacée après. Et en fait, c'est ça que je trouve intéressant, et triste, mais intéressant, c'est que c'est pas si simple que ce qu'on croit. Et il y a plein d'époques où, dans plein d'autres domaines d'ailleurs, hein, des femmes ont brillé et été connues et reconnues, et on les a enlevées après de l'histoire, ce qui fait qu'on les connaît plus aujourd'hui. Quoi.
Quand on dit « on les a enlevées », c'est qui? C'est les historiens avant tout?
Après, c'est complexe, moi je suis pas historienne, donc je me lancerai pas... dans une simplification de cette explication, mais oui, il y a plein de choses. Il y a les historiens, les musicologues, qui étaient en grande partie des hommes, que la musique, on a commencé vraiment à écrire des livres autour de ça au 19e siècle, qui était un des siècles les plus misogynes. Il y a plein d'explications.
Un orchestre à soi, c'est le projet donc que vous développez et qui est comment dire développé en deux volets en ce moment. Il y a d'abord donc sur la plateforme Cube KUB, et cette plateforme, il faut taper cubeweb.media pour y accéder. On peut y découvrir l'épisode pilote d'une série qui s'appelle Un orchestre à soi, des portraits de compositrices oubliées. La première à découvrir déjà là en ce moment en ligne, c'est Sophie Gaïl, plutôt dans le registre de l'opéra comique, c'est ça?
C'est ça, tout à fait.
On peut en dire quelques mots de cette Sophie Gaïl?
C'était donc une compositrice du XVIIIe siècle qui a beaucoup écrit en effet pour l'opéra comique. Donc l'opéra comique, en fait, c'est pas forcément un opéra qui est drôle, c'est l'ancêtre de la comédie musicale. C'était l'opéra, on va dire, un peu plus populaire. Et justement, parce que c'était une musique plus populaire, elle est tombée un peu dans l'oubli après. Et donc, par là même, on a effacé Sophie Gaïl des livres d'histoire, alors qu'à l'époque, elle était très connue. Ouais.
Une compositrice française, hein?
Oui, tout à fait, oui.
L'histoire de la musique, et après la musicologie, à partir de 1900, on dédaignait Sophie Gaïl parce qu'elle est une femme, mais aussi parce qu'elle était active à une espèce de période maudite de la musique française, on pourrait dire. L'opéra comique est passé de mode. Donc le fait qu'elle se soit exprimée dans l'opéra comique était un handicap. Et ensuite, elle a été célèbre pour ses romances. Et c'est la même chose, la romance est considérée comme un genre extrêmement mineur. Et très peu de romances sont restées dans le patrimoine musical.
N'est-ce pas d'elle que je vous parle à chaque instant? Eh bien, c'est d'elle que je veux parler plus souvent.
C'est un extrait de l'épisode pilote de la série Un orchestre à soi, toujours à voir en passant par le site de Léa, leachevrier.fr. Et en tout, ce sont 8 épisodes qui ont été imaginés par elle et Laureline Amagneux. Toute cette galerie de portraits, elle va être diffusée très bientôt à la fin du mois de septembre sur France.tv. Et le premier épisode qui est consacré à Hildegard de Bingen est déjà en ligne.
On a pris donc un épisode par compositrice, donc on prend 8 compositrices dans l'histoire de la musique et on balaye entre le 12e et le début du 20e siècle, en gros, une par grande période, donc Moyen-Âge, Renaissance, Baroque, etc., etc.
Et tout ça en mêlant des compositions graphiques, des témoignages et puis des performances musicales. Et en parallèle de cette diffusion en ligne, vous avez donc conçu une installation sonore, alors dont peut-être les auditeurs ont vu passer le nom, puisqu'elle a été présentée à Rennes à la sortie d'une résidence au Conservatoire de Rennes sur le site du Blône, c'était fin 2023.
C'est ça, c'était en octobre. Et à l'époque, ça s'appelait Décompose, Recompose, et ça a changé, ça s'appelle Un orchestre à soi. Et donc, cette installation sonore, elle va avec la série. Et on va dire que la création sonore, elle est plus sur jouer avec le spectateur et les spectatrices sur leurs ressentis et faire ressentir aux personnes le fait que les compositrices ont disparu, leur invisibilisation, et qu'elles reviennent. Donc je mêle en fait plein de voix et plein de chants que j'ai enregistrés qui ont été écrits par des femmes entre le 12e et le début du 20e siècle, que je redécoupe et je refais une composition, on va dire, musique électroacoustique avec, en mélangeant d'autres sons aussi. Et l'idée, c'est vraiment de faire ressentir aux gens des émotions, que ce soit de la colère, de la tristesse sur le fait qu'elles étaient invisibilisées, et d'espoir sur le fait qu'on les redécouvre aujourd'hui. Et donc au début, il n'y avait que ça. Et puis en fait, c'est vrai que je me disais, ça manquait un petit peu d'informations. Les gens, une fois qu'ils avaient entendu ça, ils avaient envie d'en savoir plus. Et c'est pour ça que je me suis associée avec Laureline Amagneux, qui est et la productrice et la réalisatrice des vidéos. Et donc la web-série qu'on va faire sur les 8 épisodes, eux, pour le coup, ils creusent les raisons de leur invisibilisation. Donc ce que je disais un petit peu tout à l'heure sur les musicologues, les historiens, etc. C'est ça qu'on essaye de creuser dans cette série. Et par compositrice, on essaye de décrypter 8 mécanismes différents qui peuvent expliquer, selon les périodes, pourquoi aujourd'hui on ne les connaît plus. Donc sans vouloir être exhaustif, c'est compliqué, l'invisibilisation des femmes, globalement. Mais voilà, là, on essaie de prendre 8 raisons différentes et 8 époques différentes.
Une série, on le dit au passage, qui a été produite et rendue possible grâce à Narrative et Rétroviseur Productions. Votre objectif, on le comprend, c'est de faire découvrir des compositrices européennes majeures, donc entre le 12e et le 20e siècle. On peut peut-être essayer un peu de décrire ce dispositif, rien que physiquement. On est donc sur une création sonore qui est spatialisée. Les spectateurs arrivent, qu'est-ce qu'ils voient ? Il faut s'asseoir, ça marche comment ?
Donc on rentre dans une pièce, il y a 8 pupitres qui sont répartis dans l'espace. Et en fait, chacun de ces pupitres, donc sur le pupitre, sur le bois directement des pupitres, parce qu'ils sont en bois, j'ai fait imprimer des textes et des portraits. Donc on voit les portraits un peu floutés des compositrices et des textes qui sont soit des lettres d'époque qui leur étaient adressées, donc soit dans leur famille, leur mari, leur père, leur mère, qui leur... en général, qui leur dit plutôt qu'il faut qu'elles arrêtent de composer pour rentrer à la maison et s'occuper des enfants, mais pas toujours. Ça peut aussi être pour les pousser. Et puis des critiques d'époque, donc des extraits de journaux, qui soient positifs ou négatifs, pour montrer en fait qu'elles existaient, qu'elles étaient connues et qu'il y avait des articles sur elles, quoi.
Et donc c'est en s'approchant de ces pupitres que le son se déclenche.
Non, donc en fait le son se déclenche quand on rentre dans l'espace. Il y a une composition qui fait une vingtaine de minutes à peu près. Et derrière chaque pupitre, en fait, j'utilise ce qu'on appelle un vibreur. Donc c'est un petit dispositif sonore dans lequel j'envoie du son et qui vient faire vibrer la planche de bois du pupitre. Et donc le son, en fait, sort directement du bois des pupitres. Il y a pas de... Enfin, il y a aussi des haut-parleurs, mais il y a aussi ce principe de faire sortir le son des pupitres. Donc j'envoie des voix. En fait, tous les chants que j'ai enregistrés vont sortir directement des pupitres. Donc quand on rentre, ce qu'on voit, c'est ça. C'est des pupitres qui sont répartis, des textes qu'on peut venir lire, des portraits et des voix qui sortent de ces pupitres. Et puis tout autour, donc il y a aussi une couronne d'enceintes, des vraies enceintes pour le coup. Et en fait, dans ces enceintes, je diffuse d'autres types de sons. Donc je vais diffuser des sons plus des drones ou des nappes sonores que j'ai créées à partir d'instruments de musique que j'ai enregistrés notamment avec les élèves du Conservatoire de Rennes. Et cette couronne-là de haut-parleurs, en fait, donc elle nous entoure totalement, nous spectateurs, parce qu'on se balade, on peut marcher à l'intérieur des pupitres. Et ces haut-parleurs qui sont autour, en fait, ils illustrent plus ou moins la force du patriarcat qui empêche ces compositrices et ces voix, en fait, de chanter. Et donc à chaque fois qu'une voix essaye de chanter, il y a un son, il y a un drone assez fort dans les autres enceintes autour, et hop, ça coupe la personne qui essaie de chanter. Et puis, plus la création sonore avance, plus il y a de nombreuses voix qui sortent des pupitres, et qui, au début, donc, elles arrivent juste à dire des syllabes, des respirations, des syllabes, et puis plus petit à petit, elles arrivent à dire des phrases entières, et puis elles se superposent, et du coup, ça crée des harmonies, j'arrive à superposer différents morceaux, mais que ça fonctionne ensemble. Et l'idée, c'est de symboliser le fait que si on se met ensemble, en fait, il n'y a qu'une idée du collectif, et qu'on se bat ensemble, et ben on peut réussir à redonner la place à ces compositrices. Et donc à la fin, on entend un chant entier, pour le coup, à 4 voix qui est dans tout l'espace sonore. C'est un chant de Vittoria Aleotti. Mais oui, ce qu'il faut dire en effet, c'est que cette composition sonore que je fais, elle est collaborative, c'est-à-dire que tout le monde peut venir participer et elle est évolutive. Donc en fait, à chaque fois que je récolte des nouveaux chants, je peux les incruster dans la création sonore et elle évolue comme ça au fur et à mesure des chants que je récolte. L'idée étant de donner envie aux gens de s'emparer de ça et de dire que tout le monde peut participer à ça et qu'en fait, comment dire, la perception qu'on a de l'histoire, elle change aussi parce que chacun découvre des choses, chacun chacune. Et voilà, donc si un jour je récolte un autre chant à quatre voix que je trouve très beau, je pourrais totalement remplacer le chant final par un autre.
Ouais. C'est des voix professionnelles mais aussi amateurs que vous collectez?
Oui, c'est ça. Donc il y a deux manières différentes de participer en fait au projet. Soit j'organise des séances d'enregistrement en fait, soit quand je suis en résidence, soit avant les expositions, j'essaie d'organiser une demi-journée, une journée d'enregistrement. Donc les gens peuvent venir s'inscrire et venir chanter. Donc là, il y a de tout, il y a des amateurs, des professionnels, tout le monde peut venir chanter. Et il y a aussi une autre manière, parce que je me suis rendu compte que quand même les gens qui s'inscrivaient, c'était rarement des gens qui n'avaient jamais fait de musique du tout, ce que je trouve un petit peu dommage. Et donc du coup, je suis en train de... C'est pas encore prêt, mais il y aura un prototype à Brest. Je suis en train de créer un karaoké avec ses chants, ce qui permet en fait à tout le monde, pour le coup, vraiment tout le monde, de pouvoir venir chanter, même si on n'a jamais vu une partition de sa vie, quoi. Donc c'est comme un karaoké, on a les paroles qui défilent, on peut écouter la musique avant, il y a un piano qui nous accompagne, ce qui nous aide et qui nous joue la mélodie qu'on doit chanter, et voilà, et on peut chanter. Et donc après, c'est un peu comme SingStar, le jeu vidéo de karaoké sur PlayStation des années 2000. Et donc on peut chanter et le logiciel détecte en fait la note qu'on chante. Et donc si on arrive à chanter à peu près correctement, on va dire, l'idée ce serait que le fichier puisse s'enregistrer et que moi je puisse le récupérer et donc l'incruster dans la création sonore. Toujours avec cette idée que chacun, chacune puisse participer et voilà, que ça soit collaboratif.
On a déjà cité quelques noms de compositrices. Est-ce qu'on s'arrête sur un de ces noms, peut-être celle qui vous bouleverse le plus ou dont l'histoire vous a interpellé?
Moi, celle qui m'a le plus interpellée, comme je disais tout à l'heure, c'était Elisabeth Jacquet de la Guerre. Après, si je dois parler d'une autre, là, comme ça, ce qui me vient en tête, c'est Ethel Smyth, qui était une compositrice du 19e siècle, 20e siècle, anglaise. Et c'est la première compositrice, en tout cas que je sache, qui se dit féministe et qui comprend en fait les mécanismes qui sont plus larges et qui sont systémiques autour de l'effacement des femmes et de la difficulté pour les femmes de réussir à vivre en étant compositrice. Alors que toutes les celles d'avant, en tout cas de ce qu'on retrouve et des preuves historiques que j'ai pu lire moi dans les différents livres, puisque je suis pas chercheuse, les autres femmes en général se dénigraient elles-mêmes ou alors pensaient qu'elles avaient eu de la chance ou qu'elles étaient des exceptions, etc. Et il y a que Ethel Smyth finalement qui comprend les mécanismes globaux et qui se dit ok, en fait, si c'est plus difficile pour moi, c'est pas juste parce que je suis nulle, c'est parce que voilà, je suis une femme et qu'il y a des mécanismes qui font que c'est plus difficile pour moi et que c'est pour ça que je connais pas les autres. Et elle-même, elle dit qu'elle ne connaît pas d'autres compositrices et qu'elle croit être une des premières, alors que non. Et donc il y a toujours eu ça en fait dans l'histoire, à chaque fois, chaque grande compositrice se croyait être la première, donc c'est très difficile quand on se croit être la première, ça met une pression incroyable. Et en fait non, il y en a eu plein d'autres.
C'est là qu'on le dit, un orchestre à soi, pourquoi ce titre? C'est en référence à une autrice bien connue, féministe.
C'est ça, c'est en référence à Virginia Woolf. Son livre « Une chambre à soi ». Et donc, c'est un peu la même chose parce qu'elle, elle parle dans son livre de la difficulté pour les femmes d'être autrices et de la nécessité d'avoir justement une pièce à soi.
Les conditions pour pouvoir créer, quoi.
C'est ça, d'avoir une pièce, d'avoir du temps, ce que les femmes ont rarement.
Merci beaucoup.
Merci Lucie.
Léa Chevrier, autrice et réalisatrice sonore rennaise, à l'origine de l'installation et de la web-série Un orchestre à soi. C'est à voir du samedi 21 septembre au samedi 5 octobre sous forme d'installation à l'Opéra de Rennes. Et puis sur France Télévisions pour la web-série fin septembre, le premier épisode est en l'occurrence déjà en ligne sur la plateforme France.tv.